Pour commencer, connaissez-vous l'histoire de l'âne de Buridan? Non? Écoutez bien. Selon elle, un âne mourant de faim et de soif se retrouva à égale distance entre un seau d'eau et un seau d'avoine. Ne sachant que choisir entre la soif et la faim, il mourut. En effet, la liberté, c'est pouvoir réussir à choisir. Cette histoire fait un bon parallèle avec le sujet de l'émission du jour, les libertés et l'esclavage moderne. Nous allons donc écouter 8 groupes qui vont chacun nous parler d'un sujet différent qui compromet notre liberté. Tout d'abord, nous accueillons Léna et Marjorie qui vont nous expliquer pourquoi l'avortement devrait être possible dans tous les États d'Amérique.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons une jeune femme afro-américaine qui va témoigner sur son avortement. Nous allons aussi débattre sur la liberté des femmes. Avant de l'écouter, nous allons vous expliquer l'histoire de l'avortement aux États-Unis.
L'avortement a été autorisé aux États-Unis, dans tous les États, sous certaines conditions. Le 15 mai 2019, l'Alabama a interdit la totalité des IVG. Puis le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis annule l'arrêt Roe v. Wade, qui reconnaissait le droit à l'avortement au niveau fédéral.
Une juge de l'Arizona a rétabli l'interdiction presque totale de l'avortement, réactivant une loi qui remonte au milieu du 19e siècle. Il ne serait donc plus possible pour une femme de pratiquer une IVG, même en cas de viol ou d'inceste. Faudra-t-il à nouveau que les femmes se fassent avorter avec des cintres ?
Cela nous ramène à notre question principale. Pourquoi est-ce que l'on devrait toujours avoir le choix d'avorter ? À présent, nous allons accueillir notre victime qui va nous raconter ce qu'elle a enduré.
Cette jeune femme n'avait pas les moyens d'aller avorter dans un autre état. De plus, ses difficultés s'accompagnaient d'une course contre la montre. La jeune femme avait moins d'un mois avant que le gouvernement texan n'adopte une des lois les plus restrictives des États-Unis sur l'accès de l'avortement. Maintenant, nous allons lui laisser la parole.
J'ai dû faire une longue et difficile démarche. Au bout de mes 8 semaines, il était trop tard pour avorter. J'ai dû prendre contact avec une clinique, mais je me suis aperçue quelques jours plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un centre anti-IVG qui a tenté de me dissuader. Ils m'ont fait croire qu'ils allaient m'aider et m'ont fait perdre 2 précieuses semaines en me donnant une fausse pilule abortive. Il ne m'en restait que 3 pour trouver une solution. Je souffrais beaucoup à cause de la pilule abortive. Je me suis créé une boîte mail d'un autre état où l'avortement était légal afin de prendre rendez-vous avec un médecin en téléconsultation. Je pouvais enfin recevoir mes vraies pilules abortives. Je les ai prises immédiatement. C'était comme si mon ventre explosait. J'ai perdu tellement de sang que j'avais des vertiges. Sur une échelle de 1 à 10, ma douleur était à 20. Je ne regrette pas ce choix pour autant. Cet avortement m'a permis de garder le contrôle de ma vie.
Merci pour votre témoignage très touchant. Voilà pourquoi nous devrions toujours avoir le choix d'avorter où que l'on vive.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Maintenant, nous accueillons Manon et Anna, deux journalistes qui vont nous parler des dangers des écrans sur nos santé physique et mentale.
Bonjour, nous sommes Manon
et Anna.
Nous sommes journalistes pour Journal Addict. Aujourd'hui, nous venons vous faire de la prévention sur l'addiction aux écrans des adolescents.
Selon France Info, les jeunes de 13 à 17 ans ont en moyenne passé 4h11 par jour devant leurs écrans en 2022, soit une heure de plus qu'il y a 10 ans.
Ils utilisent principalement ce temps sur les réseaux sociaux, tels que Snapchat, TikTok, Insta, les plateformes de vidéos, replay ou musique.
Cette consommation excessive peut avoir des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Par exemple, il y a des répercussions sur la scolarité des adolescents, mais on peut citer aussi des effets néfastes sur la vie sociale.
D'abord, sur l'aspect santé, des manifestations physiques sont à déplorer, telles que des troubles de la vue. On peut parler aussi des douleurs au cou, aux épaules et aux poignets. Un manque de sommeil courant à cause de multiples activités en ligne qui incitent les jeunes à repousser l'heure du coucher.
En plus, la lumière bleue retarde la libération de la mélatonine. C'est une hormone favorisant l'endormissement. Le sommeil est de mauvaise qualité, comme par exemple les réveils nocturnes.
L'alimentation est aussi touchée.
C'est-à-dire
grignotage devant les écrans, décalage des heures de repas. Tout ça peut entraîner aussi un surpoids à cause du manque d'activité physique.
Et c'est tout ?
Non. Trop d'écran entraîne fatigue, stress, troubles de l'humeur ou hyperactivité.
Il n'y a pas que la santé qui est impactée, mais la scolarité aussi, puisque les jeunes passent moins en moins de temps à étudier et que leur capacité de concentration diminue.
Pareil pour leur vie sociale. Les jeunes ont tendance à s'isoler sur leurs écrans. Ils recherchent moins les interactions avec leurs camarades. À cause des réseaux sociaux et des contenus rapides en diffusion, l'harcèlement a été multiplié.
Cela peut être alarmant. Malgré tout, les véritables addicts qui ne représentent qu'une petite partie des adolescents. Notre intervention d'aujourd'hui avait simplement pour but de vous sensibiliser à la vigilance d'avoir une utilisation raisonnée aux écrans.
Merci beaucoup pour votre intervention. Après avoir parlé des dangers des écrans, nous accueillons Amel, Marine et Lily qui vont nous parler du problème de la dépendance affective.
Bonjour et bienvenue sur notre Minute Info Psycho. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Bozolou, psychologue spécialisée dans les relations humaines. Elle va pouvoir nous parler de la dépendance affective accompagnée d'une de ses patientes.
Alors oui, bonjour, ravie d'être ici parmi vous. Merci de nous avoir invités sur votre radio.
Bonjour, heureuse d'être ici aussi pour pouvoir témoigner de ce trouble trop peu connu.
Nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, Marine, expliquez-nous qu'est-ce que la dépendance affective.
Alors, la dépendance affective, c'est un trouble psychologique considéré comme une maladie lorsqu'il entraîne de la souffrance. Il se traduit par un grand besoin affectif des autres. Il peut se produire dans une relation amicale, amoureuse ou au travail.
D'accord, merci. Et quelles sont les causes de ce trouble ?
Alors, il peut y avoir différentes causes, mais ce sont principalement les traumatismes de l'enfance, comme de la violence ou un harcèlement. Ça touche aussi les personnes hypersensibles, timides, introverties ou qui manquent de confiance en elles. Mais encore les personnes ayant connu des difficultés dans leur relation précédente.
Donc si je résume, ce trouble touche principalement les personnes les plus fragiles ou ayant un lourd passé. Mais quels sont les symptômes et les conséquences de cette dépendance ? Est-ce que c'est handicapant dans la vie de tous les jours ?
Au niveau des signes, on verra surtout la peur de la solitude, de l'abandon, mais aussi l'incapacité à se rassurer soi-même avec un manque de confiance en soi. À ça s'y ajoute une incapacité à faire des choix, par doute de ne pas plaire à l'autre. Une personne atteinte de ce trouble est souvent impulsive et a du mal à gérer ses émotions.
Ça doit être très difficile à vivre. Est-ce que c'est aussi compliqué dans les relations avec les autres, dans son couple par exemple ?
C'est quelque chose d'assez compliqué, c'est vrai.
J'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais expliquez-nous les impacts dans votre relation amoureuse.
Pour ma part, je me questionne en permanence lorsque je suis éloignée de mon partenaire. J'ai énormément besoin d'être près de lui, ce qui donne une relation très fusionnelle mais à la fois toxique. C'est à lui que je vais toujours demander son avis car j'ai du mal à prendre une décision seule et je cherche toujours à lui plaire.
Ce n'est pas le cas pour Lily, mais chez certaines personnes, il y a une tendance à solliciter énormément le partenaire, voire à lui faire du chantage affectif, avec toujours ce besoin d'approbation et de réassurance de ce référent.
Et en fait, ce trouble est diagnostiqué grâce à ces signes, car il n'existe pas réellement pour le moment des tests médicalement reconnus pour évaluer le degré de dépendance affective, c'est bien ça ?
Effectivement, il n'en existe pas encore. Il faut savoir qu'il touche autant les hommes que les femmes. Mais cependant, s'il est diagnostiqué, il est important de se faire accompagner car si cette personne n'est pas prise en charge, elle peut mener à la dépression.
C'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire d'en parler parce que cette carence affective va déséquilibrer au final les relations et faire souffrir notre entourage. Donc il est plus facile qu'on soit aidé et que plus de personnes connaissent ce trouble pour mieux le comprendre et comprendre les personnes atteintes. Et je pense qu'il faut rappeler que quand même 2% de la population française est en dépendance affective.
Merci de nous avoir invités pour en parler et nous permettre de faire découvrir ce trouble à un maximum d'auditeurs et peut-être de faire prendre conscience de ce trouble.
C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie de nous avoir fait partager votre expérience. C'était notre Minute Info Psycho. Merci de nous avoir écoutés.
Après le thème de la dépendance affective, c'est maintenant au tour de Lona et Thomas qui vont nous parler des dangers des jeux d'argent.
Bonjour, aujourd'hui je vais interroger une femme ayant été addicte aux jeux d'argent. Adolescente, elle ne pouvait plus s'en passer. Nous allons la questionner sur les jeux auxquels elle jouait, puis comment elle a fait pour savoir si elle était vraiment addicte. Elle nous parlera ensuite des causes et des conséquences des jeux d'argent, et enfin, comment elle a réussi à s'en sortir. Bonjour Lola, bienvenue dans notre émission.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors tout d'abord, une addiction aux jeux d'argent, c'est quoi ?
L'addiction aux jeux d'argent, c'est une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d'argent, conduisant à une perturbation des activités personnelles, familiales ou professionnelles.
À quel jeu avez-vous joué auparavant ?
Personnellement, je jouais plus aux paris sportifs et aux machines à sous.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à jouer ?
J'ai commencé à parier par hasard sur des matchs de foot, puis j'ai toujours voulu gagner plus ou récupérer l'argent que j'avais perdu au pari précédent.
Comment vous vous êtes rendu compte que vous en étiez vraiment addict ?
Bon, au moment de jouer, je me sentais libéré et j'avais une sensation de bien-être. Je continuais à jouer même si je n'avais plus d'argent. Quand je ne jouais pas, je ressentais un manque.
Quelles ont été les conséquences sur votre vie personnelle ?
Je demandais de l'argent à mes proches pour pouvoir jouer. Je n'avais même plus assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Et quand je ne jouais pas, je pouvais avoir des réactions excessives.
D'après vous, comment on peut s'en sortir d'une addiction ou dépendance au jeu d'argent ?
Pour me sortir de cette addiction, ça a été très dur. J'ai dû me faire suivre par un psychologue. Il y a eu aussi mes proches qui m'ont beaucoup aidé. J'ai dû occuper un maximum mon temps pour pas que je ressente l'envie d'aller jouer.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui voudraient jouer ?
Je leur déconseillerais énormément d'y jouer. Et pour ceux qui y jouent déjà, je leur conseillerais de ne pas jouer toutes les semaines et de faire très attention parce qu'une fois qu'on tombe dans cette addiction, c'est une spirale et on s'arrête pas.
Merci pour ce témoignage très touchant. Maintenant, nous accueillons deux Maëva qui vont nous expliquer en quoi la construction des stades au Qatar remet en cause la liberté des ouvriers.
Bonjour à tous. Question du jour. Pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, peut-on parler d'esclavage moderne en ce qui concerne les conditions de travail durant la construction des stades de foot au Qatar pour la Coupe du Monde de cette année ? Les avis divergent. Une vraie polémique a eu lieu. Qu'en pensez-vous ? Voici notre avis.
L'esclavage moderne a plusieurs formes, mais celle qui nous intéresse ici est l'exploitation des milliers de travailleurs pendant les constructions des stades qataris. On parle de 1,7 million de victimes. Ce sont majoritairement des migrants venus de pays d'Asie comme l'Inde. Et alors, des travailleurs immigrés, il y en a partout dans le monde. On parle pas pour autant d'esclavage moderne. Arrêtez, vous exagérez, nous direz-vous. Non, le terme d'esclavage moderne est bien choisi.
Ces travailleurs ont été privés de beaucoup de libertés, comme le fait de ne pas pouvoir retirer de l'argent. Leurs passeports ont été confisqués. Ils étaient comme la propriété de leur employeur. Ils ne pouvaient pas quitter le Qatar. Les travailleurs n'avaient pas non plus de liberté syndicale ni de droit de négociation avec leurs employeurs.
On commence à vous convaincre ? Pour celles et ceux qui sont encore sceptiques, écoutez la suite.
En plus, ils ont souvent été maltraités à cause du manque de protection. La construction s'est faite sous de très fortes températures et en plein soleil.
Leurs conditions de vie n'étaient pas bonnes non plus. Un témoin parle d'une chambre d'hôtel pour 10. Il dormait serré, sans avoir de salle de bain appropriée, ni assez d'eau pour se laver et des difficultés pour leurs autres besoins hygiéniques.
Ces ouvriers migrants ont travaillé entre 16h et 19h par jour, 7 jours sur 7. D'après certaines sources des pays d'origine des migrants, ces conditions de vie et de travail déplorables auraient fait plus de 6500 morts.
Nous trouvons donc que la Coupe du Monde au Qatar a été une honte. Toutes celles et ceux qui l'ont encouragée et permise portent une immense responsabilité. Ils doivent eux aussi avoir sur la conscience la mort de ces milliers d'ouvriers. Sans parler du désastre écologique et du scandale politique. Mais ça sera l'objet d'une autre chronique.
L'esclavage n'est donc pas terminé.
J'espère que nous vous en avons convaincus. À nous de rester vigilants.
N'oublions pas ces migrants qui souffrent encore partout dans le monde et même en France.
Et maintenant, changeons de sujet en accueillant Hugo et Gabriel qui vont nous exposer les dangers du cannabis.
Bonjour à tous. Le saviez-vous ? Consommer du cannabis, une fois ou régulièrement, réduit la mémoire et les capacités de raisonnement. Chez les 16-25 ans, les consommateurs de cannabis ont aussi de moins bonnes capacités d'attention et d'apprentissage. Ça craint, non ? Oui, surtout que les ados qui fument du cannabis peuvent perdre jusqu'à 5 points de QI.
Dans certains cas, fumer du cannabis peut aller jusqu'à déclencher des maladies, comme la schizophrénie et également des problèmes de poumons et de cancer. Mais alors on peut se demander pourquoi certains ados consomment du cannabis. Certains jeunes décident de consommer suite à des problèmes, par exemple la séparation des parents, des problèmes au collège ou au lycée. Les ados concernés retrouvent dans la consommation de cannabis comme un effet rassurant, comme si tous les problèmes et tous les soucis disparaissaient. Mais malheureusement, ces effets sont souvent déclencheurs de l'addiction. Le manque que ressentent ces ados s'exprime sous la forme d'une nervosité accrue, l'impression d'être à fleur de peau, de l'anxiété, la perte d'appétit, et aussi un dérèglement du sommeil.
Si vous souhaitez en consommer, faites attention, vous pouvez vous faire arrêter. Suivant les cas, une peine de prison à la clé. Donc la meilleure solution, c'est d'en parler. Au lycée, l'association Tempo est prête à vous écouter.
Et pour finir, nous accueillons Johan et Samy qui vont nous expliquer comment les jeux vidéo agissent sur la liberté.
Bonjour et bienvenue sur notre chronique. Aujourd'hui, on va aborder l'action des jeux vidéo sur la liberté. 3,2 milliards de personnes jouent aux jeux vidéo. Cela représente 40% de la population mondiale en 2022. Parmi eux, 37,4 millions sont français. Les jeux vidéo sont devenus une forme de divertissement très populaire, mais leur impact sur la liberté individuelle peut être discuté. D'un côté, les jeux vidéo peuvent offrir une expérience de jeu immersive, créative et enrichissante. Les joueurs peuvent s'immerger dans des mondes virtuels, explorer des scénarios fascinants et développer des compétences cognitives et sociales. Les jeux vidéo peuvent également offrir un sentiment d'accomplissement et de maîtrise de soi, en permettant aux joueurs de surmonter des obstacles et de relever des défis.
Mais alors, quels sont les effets néfastes sur la personne qui y joue ? Tout d'abord, il peut y avoir des répercussions sur sa santé, sa famille et l'ensemble de sa vie sociale. Isolement, perte des liens sociaux, sentiment de couper du monde réel. Une cyberaddiction se met vite en place. Les effets des jeux vidéo sur le cerveau. Risque de réveiller des pathologies mentales graves, telles que la schizophrénie, la dépression et des crises épileptiques. De plus, une trop grande consommation peut entraîner un sous-développement de certaines zones du cerveau, notamment à un âge où le cerveau n'est pas pleinement construit, avant 25 ans. Il y a également des effets négatifs sur la santé, maux de tête, fatigue oculaire, vision floue, la lumière bleue des écrans qui, par exemple, est toxique pour la rétine, peut endommager l'œil humain sur le long terme. L'obésité fait également partie des effets néfastes sur la santé lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une activité physique régulière. Elle modifie également le comportement comme des troubles du sommeil.
Il est important de prendre en compte les deux aspects des jeux vidéo afin de maximiser les bienfaits potentiels et de minimiser les risques pour la liberté individuelle. Les joueurs, quant à eux, devraient être conscients de leur propre utilisation des jeux vidéo en évitant la dépendance et en gardant un équilibre entre le temps de jeu et les autres activités. Pour s'en assurer, on peut utiliser des applications permettant la régulation du temps de jeu. Merci de nous avoir écoutés.
Et nous vous remercions d'avoir écouté notre émission RD Dauphiné. Sur ce, à bientôt.